Nous aimons la parole de Dieu, vous êtes d'accord ? Nous ne l'idolâtrons pas, bien entendu, parce qu'on peut idolâtrer la parole de Dieu et au risque de devenir peut-être légaliste ou je ne sais quoi. Mais ce que nous désirons, c'est vivre la parole de Dieu, être enseigné par elle. Et je vous propose ce texte que nous trouvons dans l'évangile selon Luc au chapitre 8, à partir du verset 40. C'est un récit que vous connaissez, j'aimerais voir deux, trois choses avec vous, peut-être plus que cela. C'est un récit qu'on retrouve aussi, pour une fois un peu plus détaillé, dans l'évangile selon Marc au chapitre 5, et puis aussi plus succinctement dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 9. Mais je préférais la version de ce que Luc nous dit ici dans le chapitre 8 à partir du verset 40. Et je lis. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue, et se jetant à ses pieds, il implora Jésus pour qu'il entre dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis, notez, 12 ans, et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus lui répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée, comment elle avait été guérie, notée à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Il parla encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'y entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent stupéfaits, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Parole du Seigneur, qui est vivante, qui nous restaure, qui nous fait du bien, qui nous encourage. On va reprendre, bien sûr, deux, trois choses dans ce récit que j'aimerais souligner avec vous. Déjà, à partir du verset 40, donc à son retour, on voit que Jésus parcourt, bien sûr, toute cette terre en Israël, et il est de retour dans cette région, et il est reçu par la foule. Notez que la terminologie, je ne vais pas être trop technique ce matin, mais ce qui crée le terme de foule vient du terme initial grec qui dit besoin, avoir besoin. Donc lorsque nous sommes en présence d'une foule, il y a un besoin spécifique. Et j'aimerais intituler ce premier point que nous avons tous des besoins spécifiques parmi la foule. Tu es venu ce matin, il en est des questions dans la louange, tu as un besoin particulier. Et lorsque Jésus est entouré de cette foule, il y a des besoins parce que ce terme qui forme foule est fait de ce terme « avoir besoin de ». Et cette foule attend Jésus. J'espère qu'aujourd'hui, la foule que nous sommes dans l'église, nous nous attendons à Jésus. Parce que lorsque nous sommes dans l'attente de Jésus, lorsque nous sommes en présence de Jésus, comme maintenant par l'Esprit bien entendu, eh bien quelque chose se passe. Amen. Est-ce que ce matin, tu t'attends à quelque chose qui se passe? Est-ce que tu t'attends à Jésus comme cette foule s'attendait au Seigneur? Et bien sûr, il y a un événement là. Il y a cet homme du nom de Jaïrus qui est chef de cette synagogue et qui se jette à ses pieds. Il implore Jésus pour qu'il entre dans sa maison. Il a envie d'avoir la présence de Jésus dans sa maison. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe avec le Seigneur. Est-ce que ce matin tu as cette attente aussi? Est-ce que dans ton cœur, dans ta maison, tu veux aussi inviter le Seigneur pour que quelque chose se passe? Il y avait cette fille unique. Vous rendez compte, une fille unique, une fille chérie dans son cœur, certainement dans sa maison, parmi sa famille, avec son épouse, on ne parle pas de son épouse, mais il y a 12 ans de bonheur. 12 ans de grâce. 12 ans vécu avec cette jeune fille. 12 ans de bénédiction. Il y a un terme qui arrive là. Et on sent la détresse de ce père de famille, de ce chef de la synagogue, qui bien entendu est entouré aussi de beaucoup de personnes. Il n'y a qu'un besoin dans sa vie là, c'est que Jésus vienne répondre à ce besoin de sa fille qui est en train de se perdre, de sa fille qui est en train de se mourir. 12 ans de bonheur, il n'y a plus rien à faire. Seigneur, il n'y a plus que toi qui peux agir pour ma fille. Peut-être que tu en es là ce matin. 12 ans peut-être qui sont passés dans ta vie, il y a peut-être un événement dans ta vie qui est marqué. Tu peux peut-être t'identifier à ce qui se passe dans le cœur de cet homme qui est brisé. Il y a 12 ans. 12 ans qui sont passés tellement rapidement. On sait, on a vécu 30 ans de mariage avec mon épouse, 30 ans, c'est aussi assez rapide. C'est vrai, j'espère qu'on a eu de très très bons temps, mon poussin. 12 ans de bonheur, 12 ans qui sont frappés là, frappés par la mort. Frappé par quelque chose qui arrive dans cette famille. Et puis il y a un or là. Or, il y avait une femme qui était atteinte de cette perte de sang depuis combien de temps? 12 ans aussi. 12 ans. Et qui n'avait pu être guérie par personne. Il y a dans les passages parallèles cette notion d'argent qui a été apportée au médecin, il n'y a plus rien à faire, il y a une perte de sang, et j'aimerais qu'on s'arrête aussi là dans ce contraste de 12 ans aussi de souffrance, de 12 ans de rejet. Vous pouvez relire dans le Lévitique 15 au verset 25, il y a une impureté persistante qui est plus qu'une impureté lorsqu'il y a les menstruations de cette femme régulière une fois par mois. La parole de Dieu dit, vous pouvez relire dans ce Lévitique 15, qu'il y a des dispositions particulières concernant cette impureté. Il y a 12 ans d'impureté là. Il y a 12 ans de détresse, 12 ans d'isolement, 12 ans où elle n'est plus vraiment femme. Il y a 12 ans où elle essaye par tous les moyens d'être guérie par les médecins. Il y a 12 ans peut-être de désespoir. Il y a une deuxième personne dans cette foule qui est là et qui se dit « Mais comment est-ce que je vais atteindre le Seigneur ?» Il y a cet homme qui vit ce brisement dans sa vie. Il y a cette femme qui vit ce brisement dans sa vie. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir. Seigneur, il n'y a plus de dignité dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et vous savez que lorsqu'il y a cette impureté, tout ce qu'on touche devient impur. Donc il y a un rejet total, il y a un isolement total dans sa vie. Il y a quelque chose de lourd, quelque chose de désespéré. Et tout ce qu'elle peut faire, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma situation? Il n'y a plus de solution. Et finalement, vêtement pour vêtement, je ne sais pas ce que je vais faire. Il y a Jésus qui passe dans la foule, il est là, c'est peut-être ma dernière chance. Je veux m'approcher de lui, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que je suis impur. Et tout ce que je touche risque d'être impur. Vous vous rendez compte le dilemme qu'il y a dans sa vie? Comment est-ce que je vais faire? Il y a son cœur qui crie, il y a ce besoin qui est là. Il y a cette détresse dans sa vie, 12 ans de vie brisée, 12 ans de séparation, 12 ans où il n'y a plus d'espoir, 12 ans de détresse. Peut-être que tu es dans cette situation, mais le Seigneur est là. Et ce qui est beau dans cette femme, elle tente finalement l'impossible. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et elle veut toucher le vêtement de Jésus, alors elle se presse et puis elle essaie de toucher le vêtement de Jésus. Mais elle sait qu'elle est impure. Il y a un dilemme en elle. Et peut-être que pour toi, tu te sens absolument indigne ce matin. Tu te sens peut-être complètement brisé dans ta vie. Et peut-être que tu es dans cette situation où tu te dis, mais je ne peux peut-être même plus venir à toi, Jésus. J'ai tellement besoin de toi, mais comment est-ce que je peux venir vers toi? Tu connais ma souffrance, tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. Si je pouvais toucher peut-être ce vêtement. Alors elle le fait. Elle prend son courage, peut-être qu'elle a son souffre-tenue, je ne sais pas, on est en direct là avec ce qui se passe, j'espère, ce matin. Et elle le touche. Elle prend un risque parce que je pense que dans sa vie, savoir qu'elle rencontre Jésus avec tous ses miracles, cette personne tellement sainte, cette personne tellement extraordinaire, cette personne tellement merveilleuse, cette personne peut-être tellement douce, peut-être qu'elle a, peut-être pas forcément avec qui elle a parlé, peut-être qu'elle a croisé une fois son regard. Il y a tout l'amour de Jésus qui passe devant elle. Voyez un petit peu la scène. Il y a peut-être un regard qui s'est croisé, je ne sais pas. Mais elle est attirée par Jésus. Et elle va vers Jésus. Et elle s'approche par derrière parce qu'elle veut pas le prendre d'une manière frontale. Elle est discrète quand même. Elle touche juste la frange de son vêtement. Le terme veut dire ici s'attacher, dans le terme de toucher. Même d'adhérer, même de s'accrocher. Elle s'accroche à son vêtement. Elle ne le lâche plus. Elle veut adhérer à Jésus. J'espère qu'on est plus que des adhérents à Jésus. Enfin, je ne sais pas comment le dire ce matin, mais elle adhère à la personne de Jésus. Elle s'attend au Seigneur. Elle s'accroche du moins à son vêtement. C'est déjà tellement précieux. Et moi, je suis là devant toi, Seigneur. Est-ce que j'ai toujours plaisir rien qu'à m'accrocher à ton vêtement ou à ce que tu peux dégager? Des fois, on n'a peut-être plus cette décence en s'approchant du Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes. Gardez les cheveux gris. Je suis déjà un vieux converti, comme on dit. Ça fait quelques années quand même. Mais est-ce qu'on s'habitue à Jésus? Est-ce qu'on s'habitue à sa grâce? Est-ce qu'on s'habitue à son amour? Est-ce qu'on s'habitue à son pardon? Est-ce qu'on s'habitue à sa fidélité? Est-ce qu'on s'habitue à sa personne? J'ai beaucoup apprécié ce matin ce temps de louange. Merci. Nous sommes là, criant « Saint, 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 l'Éternel ». Les anges, depuis une éternité, crient « Saint, 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 l'Éternel ». Et moi, je suis misérable ce matin parce que toutes les fois où j'ai manqué, Seigneur, où je me suis peut-être retrouvé dans une certaine routine de croyant, ça me fait de moi peut-être certainement un religieux. Je crois qu'on est tous concernés ce matin par ce texte. Ne nous faisons pas aux choses de Dieu. Alors elle s'accroche, elle adhère, et le temps est marqué là. C'est comme si le temps s'arrête. C'est une fois pour toutes qu'elle le fait. Elle prend son vêtement une fois pour toutes. Parce qu'elle sait que quelque chose va se passer. Ce matin, tu peux t'attendre à quelque chose aussi. Merci pour ce qui a été dit par Walter ce matin. Attends-toi à quelque chose de grand de la part du Seigneur. Même si tu te sens indigne, même si tu te sens brisé, attends-toi à quelque chose. Parce que regarde la suite, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a pas eu de jugement de Jésus comme les pharisiens auraient pu faire. Femme impure, pourquoi est-ce que tu me touches? Ne sais-tu pas que tu touches le Saint d'Israël? Ne sais-tu pas que tu touches le roi des rois, le roi de gloire? Ça, c'est le Jésus religieux qui aurait pu lui répondre comme ça. Et ce n'est pas ce Jésus-là qu'on connaît, c'est un Jésus rempli de compassion. Alors bien sûr, il est saint, bien sûr, il est extraordinaire, bien sûr qu'il est mis à part, il est sanctifié à toute cette dimension de sanctification dans la personne de Jésus. Mais c'est cette dimension de relation qui est là, amen. Il y a cette dimension de connexion, il y a cette dimension de répondre aux besoins. Alors Jésus n'est pas que là pour répondre aux besoins, mais là le besoin pressant était là pour cette femme d'être guérie, et il veut répondre à ce besoin. Et avant même que Jésus dise « Qui m'a touché ?» la perte de sang s'arrête. Il y a aussi quelque chose qui se passe une fois pour toutes là. Cette perte de sang s'est arrêtée une fois pour toutes, c'est terminé. Elle s'arrête. Le temps, c'est comme si c'était un passé simple. Elle s'arrêta. C'est terminé, il y a un terme, on n'en parle plus. Et Jésus est surpris. Est-ce qu'on peut surprendre Jésus? J'espère. Il y a cette question, qui m'a touché? Qui m'a touché? Cette femme fait toute la différence dans la vie de Jésus. Église, est-ce qu'on est encore de ceux qui surprenons Jésus dans l'attitude de vouloir le toucher, dans l'attitude de vouloir s'attendre à quelque chose? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Il est surpris. Il est surpris. Alors bien sûr, il y a Pierre et puis il y a les autres, comme tous s'en défendaient. Mais Jésus, il y a toute la foule qui t'entoure. Tu vois pas que tu es touché de partout, etc. Mais Jésus répond, mais quelqu'un m'a touché. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Car j'ai senti qu'une force, et le terme ici c'est dynamis. C'est de la dynamite qui est sortie de moi. C'est quelque chose de fort qui est sorti de moi. Il y a une force qui sort de moi parce que cette femme... Et là, elle l'a touché. Et il y a cette puissance qui est manifestée de la personne de Jésus, bien-aimé. Et Jésus est le même encore aujourd'hui pour toi ce matin. Jésus est là pour permettre que cette puissance sorte de lui. Si tu t'approches de lui dans cette grâce, dans ce bonheur de le rencontrer, dans peut-être cette nouvelle dimension. Alors la femme, bien sûr, elle est toute gênée. Elle se voit découverte. Elle vient toute tremblante se jeter à ses pieds parce qu'elle sait qu'elle est impure. Ou elle sait plutôt qu'elle était impure. Et elle déclare devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. À l'instant. Et l'instant, c'est le verset 44 aussi. L'instant de cette perte de sang qui s'arrête et à l'instant comment elle avait été guérie. Ce terme de guérie là au verset 47, si vous voulez le noter, c'est le terme de consolidation aussi. Vous pouvez y mettre le terme de consolidation. Quand tu t'approches de Jésus, quand tu touches son vêtement, quand tu touches sa vie, quand tu en vis quelque chose, que Jésus soit dégagé, il y a une consolidation dans ta vie, bien-aimé. il y a une consolidation dans ta vie qui se fait, c'est le terme. Et regardez, lorsque Jésus déclare quelque chose, c'est quelque chose de fort. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de, comment dire, il épilogue pas. Déjà, il lui dit, ma fille, c'est énorme. C'est pas femme, c'est ma fille. Parce que le fait que tu te sois approché de moi, que tu aies vu en moi ce sauveur, celui qui peut te guérir, celui qui peut te délivrer, celui qui peut t'enlever tout ce qui est d'indigne dans ta vie, toute cette honte de ta vie, tout ce que tu l'as pris par la foi. Et parce que tu l'as pris par la foi, et j'aimerais intituler cette prédication, je ne vais pas le donner juste au tout début, mais ta foi, est-ce qu'elle va dépasser la foule? C'est ça. Est-ce que ta foi que tu mets en action pour le Seigneur va dépasser ta foule? Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme. Ma fille, j'ai répondu à la foi que tu as engagée en t'approchant de moi. Ma fille, ton attitude fait de toi, ma fille, plus qu'une femme oubliée, plus qu'une femme qui était déshonorée, plus qu'une femme qui était mise à l'écart, plus qu'une lépreuse qui était atteinte de la lèpre, plus que tout ce qu'on a voulu te mettre sur ta vie, plus que tout ce qui a été rejeté dans ta vie. Tu es ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Le terme ici, c'est... Ça va pour salut, pour guérison, pour... En fait, c'est le shalom qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Alors va, parce que tu es sauvé, parce que tu es guéri, va. Et dans ce terme de va, il y a le terme de traverser. Il y a le terme de poursuivre. Il y a le terme de quitter la vie, cette ancienne vie. Il y a même le terme, sous-entendu quand on parle de racines, et ça, j'ai découvert encore dernièrement, et c'est étonnant, la parole de Dieu est tellement riche. Il y a même le terme de devenir disciple. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Va maintenant, traverse la vie. Traverse la vie en tant que disciple. Alors on ne sait pas si elle l'a suivi, mais il y a toute cette notion forte qui se dégage. Et on rajoute bien sûr le texte, en paix, en sûreté, en sécurité. Avec toute cette dignité qui revient vers toi, qui te couvre, tu es de nouveau une femme digne, tu es de nouveau une femme acceptée. On peut se dire que dans l'événement de cet homme, Jaïrus, on revient un petit moment sur tout cela, il pourrait y avoir une impatience parce que sa fille se meurt, et dans ce texte-là, on voit que cette femme prend l'occasion de ce cortège qui s'en va certainement vers cette maison, et je suis tellement touché, je voudrais aussi t'encourager ce matin. Peut-être que tu te sens au milieu de l'église comme quelqu'un décelé dans cette foule parce qu'on a tous des besoins. Peut-être que tu te sens dans un rythme ou je ne sais quoi et là Jésus s'arrête. Malgré l'urgence de cette fille qui se mourait, c'est hyper important aussi. Il y a 12 ans aussi de vie brisée là dans cette famille. Et pourtant Jésus prend le temps. Jésus s'arrête. Jésus prend le temps. Et j'espère que ce matin tu es rejoint aussi dans ce qui te touche dans ta vie. Parce que Jésus veut s'arrêter aussi pour toi ce matin. Il veut prendre le temps, le Seigneur, pour toi. Il t'aime tellement. Mais c'est ta foi qui va faire la différence. Amen. C'est ta foi en action qui va faire la différence. Alors, au verset 49, bien sûr, il parle encore lorsque quelqu'un, chez le chef de la synagogue, dit « Mais voilà, ta fille est morte, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il ne faut plus déranger Jésus. » Et Jésus se laisse encore déranger, bien-aimé. Jésus se laisse encore déranger pour toi ce matin. Mais Jésus qui avait entendu cela dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, c'est pour toi ce matin. Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Jésus qui est la résurrection et la vie, quand il n'y a plus d'espoir, il y a quelque chose qui revient, bien-aimé, amen. Elle sera sauvée, elle aussi. Parce que quand Jésus est là, quand tu t'approches du Seigneur, quelque chose se passe, amen. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu penses que les carottes sont cuites, qu'il n'y a plus rien à faire? C'est pas vrai, c'est le diable qui te le dit. Non, c'est comme ceux qui disent n'importe plus le maître, ça vaut plus la peine, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Je brise ce mensonge sur ta vie au nom de Jésus ce matin. Amen. Engage ta foi. Attends-toi au Seigneur. Quand Jésus est là, quelque chose se passe. Il est là, le Seigneur. Quelque chose se passe. Alors il entre dans cette maison. Et puis, il permet à personne d'entrer. n'y a pas de show, là, il y a une intimité avec le Seigneur. Il prend quand même Pierre, Jean-Jacques, et puis le papa et la maman. Ils pleuraient, bien sûr, ils se lamentent. Et Jésus leur dit, et il te le dit encore aujourd'hui, ne pleurez pas, ne pleure pas. Cette situation n'est pas morte. Cette situation n'est pas morte. Cette situation n'est pas marquée par l'impossibilité. Cette situation peut-être dort, je ne sais pas. Mets ce que tu veux là-dessus. Tu peux t'identifier aux promesses de la parole de Dieu. Même si on va se moquer de toi, regarde au verset 53, bien sûr. Cet enfant était mort, il se moque de lui. Parce que dans leur entendement, on peut les comprendre, on ne va pas leur jeter la pierre, bien entendu. Hein. Quand la mort est là, elle est là. Mais quand Jésus est là, il y a autre chose qui se passe. Église, ne désespère pas. Bien-aimé, ne désespère pas dans ta situation, quelle qu'elle soit. Peut-être c'est en train de dormir, je ne sais pas. Mais Jésus veut réveiller cela. Vous voyez, il y a ce contact et Jésus veut saisir aussi ta main aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup l'humanité de Jésus qui aime, qui est un homme de contact, qui aime être avec la foule, qui aime se tenir avec les pécheurs, bien sûr, sans péché, mais il est là pour sauver, il est là pour aimer, il est là pour parcourir les villes, il est là pour fortifier, il est là pour consoler, il est là pour consolider, il est là pour bénir. C'est le Seigneur Jésus que nous adorons. Il l'a saisi par la main et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. Enfant, lève-toi. » Et le Seigneur prononce cette parole sur toi. « Bien-aimé, lève-toi. Bien-aimé, prends courage. Bien-aimé, ne sois pas découragé par les moqueurs autour de toi peut-être. » Ce n'est pas trop tard quand Jésus est là. Son esprit revient en elle à l'instant. Il y a un instant là aussi. Il y a quelque chose qui se passe à l'instant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose d'indiscutable. La vie revient. Tout ce qui est de l'espoir revient. Et bien sûr, elle se lève à cet instant. Et Jésus, bien entendu, pour leur faire montrer, leur dire que ce n'est pas un fantôme. C'est pour ça qu'il y a la dimension de manger, là, parce que en général, les fantômes ne mangent pas. Hein. Enfin, j'ai jamais vu un fantôme manger. De toute façon, je n'ai pas vu les fantômes. Mais il y a le concret de Jésus. Parce qu'on peut des fois être fasciné par des choses miraculeuses, bien sûr, mais la vie redevient normale et elle doit manger. On se réveille, la vie continue. C'est étonnant, ça. C'est étonnant, ces détails de la parole de Dieu. On est dans la vie de nouveau. Il y a la vie qui revient, alors donnez-lui à manger. J'aime ce Jésus simple, ce Jésus qui rejoint les besoins, ce Jésus qui est concret. Et les parents de la jeune fille, bien sûr, furent stupéfaits. On va vite le faire à manger, ma chérie, on va cuire un œuf, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais... Et il leur recommande de ne dire à personne ce qui était arrivé. Vous voyez, il y a cette discrétion de Jésus, on n'est pas là pour faire le show. C'est entre vous et moi que ça s'est passé, c'est beau, ça me touche, on est dans l'intimité avec le Seigneur. Il n'y a rien à rajouter, il y a la grâce du Seigneur. Amen.